Et bonjour, bienvenue sur RDIWA 107.5. Vous êtes dans l'émission L'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur. C'est Fred qui vous parle et dans le studio aujourd'hui, il y a Pierrick.
Salut.
Et Axel.
Salut tout le monde.
Alors bonjour à tous et à toutes, on est content de vous retrouver. Là, c'est la première fois qu'on enregistre dans le studio de RDIWA.
Attention.
On va avoir un son magnifique. Bon, alors on va faire le sommaire de l'émission pour commencer, donc cet épisode 13. On va commencer avec le ciel ce soir. Alors à partir de maintenant, c'est Axel qui va s'occuper de cette rubrique.
Yes.
Et ensuite, on présentera un petit point d'actualité. Alors là, cette semaine, c'est les 25 ans de la découverte de la première exoplanète. Donc on en parlera un petit peu. Ensuite, on fera un point d'astronomie. Et là, je vous parlerai du rayonnement du fond cosmologique, le rayonnement fossile. Et ça va nous emmener aux origines de l'univers.
Un beau voyage.
Ouais. Après la pause musicale, ce sera la rubrique spatiale. Là, Pierrick, tu vas attaquer une série d'émissions sur les humains dans l'espace.
Ouais, on va sortir un peu des sondes et des robots et tout ça. On va parler de l'être humain dans l'espace un peu.
Les
et là, notamment, les cosmonautes, ouais. Et là, notamment, la première sortie extravéhiculaire dans l'espace.
Okay.
C'est un programme.
Et on terminera avec la rubrique Abrac. Là, on va ouvrir aussi une série d'émissions, mais qu'on reprendra pas forcément la prochaine fois, hein, ce sera ponctuel, sur la science-fiction. Et là, la première partie, ce sera un peu nos références. Donc, on va discuter un peu de ce que c'est la science-fiction pour nous, pourquoi on aime ça. On n'aime pas que le ciel, on aime aussi rêver sur le ciel et avec le ciel. Et voilà, on discutera de tout ça, tous les trois, au micro. On espère que ça vous intéressera. Alors, c'est parti pour cet épisode 13. Et donc, Axel, je te laisse la parole pour Le Ciel ce soir.
Le Ciel ce soir, ouais, de ce dimanche 11 octobre, et même pour ce début d'automne. Alors, dans le ciel, vous pouvez voir toujours, dès la tombée de la nuit, les planètes Jupiter et Saturne, qui sont un peu rapprochées par rapport au début de l'été, l'une de l'autre, qui sont toujours entre le Capricorne et le Sagittaire. Vous avez un petit peu plus tard, mais quand même plus tôt que dans l'été, où elle se levait quand même très tard, la planète Mars. Maintenant, vous l'avez dès 11h ou quelque chose comme ça, 11h minuit, qui se trouve sous Pégase dans les Poissons, dans la constellation du Poisson.
Ouais, voilà. Elle est bien visible, bien orange.
Ouais.
Elle est bien belle en ce moment.
Ouais, tout à fait, parce qu'elle est au plus près de la Terre. Dans deux jours, le mardi 13, ce sera ce qu'on appelle l'opposition, le moment où nos planètes sont les plus proches l'une de l'autre.
En fait, okay. Ça veut dire que la Terre et Mars sont du même côté du Soleil.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
Et du coup, l'intérêt, c'est qu'elle est beaucoup moins loin et donc elle est plus grosse. Hein, dans les télescopes, on la voit plus grosse, on la voit mieux. Donc c'est une très bonne période pour l'observer.
C'est ça. Ou la photographier.
C'est ça.
Voilà, alors on a dans le ciel, on retrouve en début de nuit les constellations d'été qui commencent à être très basses vers l'ouest, le cygne, l'aigle, avec le triangle d'été, Vega dans la lyre, Deneb du cygne et Altair de l'aigle, la Voie lactée aussi qui se couche avec. On a Cassiopée qui est bientôt au zénith, qui est assez facilement reconnaissable, qui forme un W ou un 3 selon le moment de la nuit. Et si vous regardez vers l'est, vous avez une étoile très brillante dès le début de nuit, qui est Aldébaran dans le taureau. Voilà, que dire de plus? Oui, je voulais parler d'un objet astronomique que j'aime bien. Alors c'est dans la constellation de Pégase. C'est en dessous de Cassiopée, en dessous du W de Cassiopée, vous avez un grand carré de 4 étoiles assez brillantes et relativement vide. Enfin, il y a un tout petit objet dedans, mais voilà un grand carré qu'on appelle le carré de Pégase. Et au bout d'un des bras de Pégase, vous avez une galaxie que je ne sais pas si elle a un nom commun, facile à digérer, mais son nom complet, c'est NGC, du catalogue NGC 7331. Une galaxie qu'on voit un petit peu par la tranche, un petit peu oblique, et qui rentre très bien dans des télescopes amateurs.
Okay.
Qui permet de trouver aussi, si vous avez l'envie, juste à côté, le quintet de Stéphane, qui sont 5 galaxies
C'est faible quand même.
Là, il faut commencer à avoir un 250 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en tout cas, 7330 est un très bel objet.
Une belle galaxie observée. Donc.
Ouais.
Ok.
Super.
Voilà.
Et ben merci pour ce petit tour du ciel nocturne, Axel. On va passer donc au point d'actualité. Alors, donc cette semaine, on fête les 25 ans de la découverte de la première exoplanète. Alors,
qu'est-ce qu'une exoplanète ?
Voilà, je rappelle. Donc, une exoplanète, en fait, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Voilà, c'est ça la définition d'une exoplanète. Donc, je rappelle, hein, les étoiles, quasiment. Enfin, on estime qu'il y a à peu près 10% des étoiles dans l'univers qui ont des planètes. Donc, les étoiles, elles émettent de la lumière, les planètes n'en émettent pas. Hein, elles sont beaucoup plus petites. Ça, on le rappelle. Donc, cette découverte, elle a été faite en France. Elle a été faite à l'Observatoire de Haute-Provence, Saint-Michel, l'Observatoire, à côté de Bannon. Vers Apte, pour ceux qui entre Apte et Fort-Calquier, pour ceux qui connaissent un peu le coin, et donc par deux chercheurs, deux astrophysiciens français, donc Monsieur Maillard et
Didier Queloz.
Voilà. Donc c'est eux qui les premiers ont mis en évidence l'existence de ces planètes dont on supposait l'existence, mais on les avait jamais détectées. Et donc suite à ça, ils ont eu un prix Nobel de physique l'année dernière. Ouais. Parce que en fait, c'est pas tant juste la découverte de la première, même si c'est toujours spectaculaire, ça a toujours un retentissement. C'est que du coup, en fait, il y a toute une branche de l'astrophysique qui s'est vraiment ouverte à ce moment-là, la planétologie, l'exoplanétologie, et on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une des branches de l'astrophysique qui est la plus dynamique, en fait, qui génère le plus de recherches et qui avance peut-être le plus vite, peut-être parce qu'elle part. De zéro, peut-être pas, mais pas loin. Donc il y avait beaucoup à découvrir, beaucoup à avancer.
On a trouvé combien là dernièrement, hein,
depuis la première, le 6 octobre 95, on est à 4000 à peu près.
4000 exoplanètes, ouais. Dans notre système solaire.
Ah non, exoplanètes.
Non, dans notre galaxie, pardon. Dans
oui,
notre galaxie.
Ça, là, on reste de toute façon dans notre galaxie. Pardon. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc voilà, 4000 planètes. Alors, dans le tas, il y a quand même beaucoup de planètes gazeuses. Jusqu'à présent, on n'a pas, ou ce qu'on appelle des super-terres, c'est-à-dire des planètes qui sont solides, mais qui sont beaucoup plus grosses que la Terre.
Oui, parce qu'évidemment, plus c'est gros, plus c'est facile à détecter.
C'est ça. Et donc, il y a tout un tas de discussions. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de planètes comme la Terre pour l'instant? Est-ce que c'est parce qu'on détecte que les plus grosses et que, comme dit Axel, les plus petites sont plus difficiles à voir, donc on ne les voit pas? Est-ce que c'est parce que notre planète est, pour X raisons, un peu particulière? Mais ça, les scientifiques n'aiment pas trop penser ça, parce que ça revient un peu à ce genre d'idée du type « nous sommes le centre du monde », etc. etc.
Oui, c'est un peu créationniste.
Voilà. Oui. Donc, il y a plein de questionnements par rapport à ça. 4000, ça peut sembler beaucoup, mais à l'échelle astrophysique, c'est quand même en fait très, très peu. Il y a à peu près 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, hein, pour donner un ordre de grandeur. Donc, on est encore au début de tout ça. Mais voilà, donc dans ce point d'actualité, on voulait faire une petite mention. C'est quand même une découverte intéressante, à la fois scientifiquement, hein, pour comprendre un peu. Parce que forcément, quand vous observez ces planètes, du coup, eh ben, vous voyez des nouveaux systèmes planétaires. Donc, ça vous donne des nouveaux exemples de ce qui est possible dans la nature. Donc, ça veut dire plein de données pour les modèles, pour les faire tourner, pour voir si on arrive à reproduire ces résultats-là, à comprendre comment ça se passe. Donc, ça fait avancer la science. Mais ça fait aussi avancer l'imaginaire, évidemment, de savoir que bah oui, il y a d'autres mondes, il y a d'autres planètes. Évidemment, la question d'après, c'est est-ce qu'on peut y aller? Bon voilà, et après, ça nous emmène dans toutes ces thématiques-là qui font partie de l'astrophysique et de l'astronomie.
Mais je ne sais pas si avant cette date, c'était si évident que ça qu'il y avait d'autres planètes autour des étoiles.
On s'en doutait bien quand même, parce qu'on ne voyait pas pourquoi il n'y aurait que le système solaire, il n'y avait aucune raison.
En fait. C'était probable, très probable.
Il les cherchait quand même. Oui. Quand l'équipe, là, ils les ont détectés, ils étaient en train de les chercher.
Ouais.
Ils ne sont pas tombés dessus par hasard.
Ok.
Et d'ailleurs, ils l'ont découvert, je parlais brièvement tout à l'heure de la constellation de Pégase, cette première exoplanète est dans la constellation de Pégase, autour de l'étoile 51 Pégasi, qui est à... Je regarde mes notes, à 51 années-lumière Donc on va pas y aller tout de suite. Et la petite anecdote marrante, puisqu'on est quand même sur Radio Diwa, c'est que le jour où ils l'ont découvert, enfin pas vraiment le jour où ils l'ont découvert, parce que c'est un processus qui prend plusieurs mois, mais le jour où ils ont été sûrs qu'ils avaient la preuve d'une exoplanète, ils ont fêté ça avec une bouteille de claret de Die.
Wow.
Ah bah alors là. Ok.
Et une tartelette framboise ou myrtille, je ne sais plus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a une excellente interview de Michel Mayor sur Internet qui s'appelle Chasseur de Monde sur YouTube.
Okay.
Voilà, vous cherchez Chasseur de Monde, vous trouverez cette interview qui est vraiment chouette. C'est là qu'il raconte ça.
Ok, alors voilà pour ce point d'actualité. Et on va passer au point d'astronomie. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous parler du rayonnement du fond cosmologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On l'appelle aussi rayonnement fossile. On l'appelle aussi rayonnement à 4K, même si le nom n'est pas très correct. Donc voilà, vous avez peut-être déjà...
Le fond diffus, c'est ça aussi.
Le fond diffus, tout ça. Donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, on va en parler maintenant.
Est-ce que, excuse-moi, est-ce que peut-être ils l'ont déjà vu, c'est pas ça, la neige sur la télé? Je crois que c'est ça.
Alors, ça peut y ressembler, mais c'est pas tout à fait ça. On va se placer à la fin des années 80. Donc 1989, il y a un satellite qui est lancé qui s'appelle COBE. Ça veut dire Cosmic Background Explorer. Donc, background, c'est le fond, l'arrière-plan,
l'arrière,
en fait.
Ouais, ouais.
Et au début des années 90, ce satellite COBE a sorti une image qui a eu pas mal de retentissement à l'époque. Pour ceux qui s'intéressaient à l'astro, à l'époque, ce qui était mon cas, on l'a vu partout, cette image, dans Ciel et Espace, et aussi dans les médias grand public. Donc on voyait une espèce... C'est comme si on vous montrait une espèce de map monde, plate, sauf que ça, c'était l'univers. Et il y avait une photo avec des zones bleues et des zones roses. C'était présenté comme ça, à l'image. Et ça, en fait, ça représentait... Alors, pour vous donner une idée, c'est imaginons qu'on prenne un détecteur, on observe l'univers, on observe l'espace dans une direction donnée, et on essaye d'enlever de l'image tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on enlève déjà la lumière du soleil, qui est forcément à côté de nous, puisqu'on est dans le système solaire. Ensuite, on enlève les lumières des étoiles qu'on voit, les lumières des galaxies, les lumières de tout ce qu'on peut voir. On enlève tout. Et en fait, on se dit, normalement, il ne reste rien. Si on enlève, en fait, non, il ne reste pas rien. Il reste ce rayonnement-là.
Il y a toujours un bruit, quelque chose.
Exactement, une sorte de bruit de fond, un signal de fond.
Permanent.
Permanent. Quasiment homogène dans toutes les directions de l'espace. Alors, quasiment homogène dans toutes les directions de l'espace. Pas tout à fait homogène, et heureusement, et on en reparlera après. Mais en tout cas, voilà, on observe qu'il y a un signal électromagnétique qui baigne l'univers, en fait. Qui est là partout. Alors,
est-ce que c'est pas juste un défaut des appareils?
Non. Alors, on est au-delà du bruit de fond, on est dans quelque chose de détecté, d'avéré. Okay. Et d'ailleurs, là aussi, il y a des prix Nobel qui ont été quelques années plus tard accordés pour ces découvertes-là. Là encore, c'est pas une découverte anodine. C'est pas dû au hasard cette découverte. C'est quelque chose qu'ils cherchaient à observer, tout simplement parce que on est à l'époque où la théorie du Big Bang a été déjà exposé, mais n'avait été en recherche en fait de validation expérimentale. Et dans les choses que la théorie du Big Bang prédit, il y a ce fond cosmologique là. Et donc ils le cherchaient. C'était déjà dans les calculs.
Okay.
Et donc là, je voudrais expliquer ce que c'est que ce rayonnement, selon les astrophysiciens, d'où vient cette espèce de... Parce que ça revient à la lumière, en fait. C'est de l'énergie, c'est un rayonnement électromagnétique, donc c'est de la lumière, c'est un signal qui baigne l'univers dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça nous amène à la théorie du Big Bang et au moment où l'univers devient transparent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Big Bang, le gros de la théorie, c'est de dire qu'on a une sorte d'énorme explosion originelle. Alors, le terme explosion n'est pas correct, mais oui. C'est une image. C'est pour essayer de comprendre. On imagine une énorme quantité d'énergie, c'est-à-dire toute l'énergie qui est actuellement contenue dans l'univers, mais concentrée en un seul point, et que d'un coup, ce point se met à exploser, à s'étendre, à prendre de la taille. On imagine que c'est ça, le Big Bang. Mais donc, ce que vous imaginez bien, c'est que si vous avez tout plein d'énergie dans une sphère qui est petite au départ et qui, petit à petit, s'élargit, eh bien, la densité moyenne d'énergie, elle diminue.
Ouais.
Ça, c'est assez clair. Hein. Ça ouais. se dilue, du coup. Vous avez cette énergie, elle se dilue dans un espace de plus en plus grand. Et donc, ça veut dire qu'à mesure que l'univers entre dans sa phase d'expansion, ouais, il se refroidit aussi. Et donc cet univers, il est constitué de quoi ? Eh bien, d'énergie pure, mais petit à petit aussi de particules. Et les premières particules, c'est les électrons, et puis les protons, avec les neutrons, etc. Mais on a des électrons, on a des protons. Et en fait, c'est quand l'univers est jeune, il est tellement chaud que les électrons et les protons sont très, très excités, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Puisque ensemble, on avait déjà parlé de l'architecture de la matière. Hein. L'atome le plus simple, c'est un atome d'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est quoi ? C'est un proton avec un électron autour.
Oui, oui.
Donc, au moment où l'univers est très jeune, il n'y a pas encore de matière. Il y a juste des particules. On arrive au moment où l'univers se refroidit suffisamment pour que les électrons puissent être captés par les protons et donc former de l'hydrogène. Donc, imaginez maintenant tout cet univers et que au même moment, c'est pas à la seconde près, mais à un moment donné, les électrons sont captés par les protons. En faisant ça, ils libèrent un photon, ils libèrent de la lumière, parce qu'ils perdent de l'énergie en étant captés par le proton. Okay. À partir de là, vous avez tout l'univers qui émet un flash. Bam ! Un énorme flash, en fait, de lumière. C'est le moment, en fait, où la matière commence, quelque part. On passe de particules à réellement une architecture en atomes. Et là, il y a un énorme flash.
Et la lumière fut.
Et la lumière fut. Et en fait, ce qu'on observe maintenant, le rayonnement fossile dans le modèle du Big Bang, c'est le reste de ce flash.
C'est ce flash qu'on entend toujours. C'est ça
qu'on voit toujours, oui, qu'on capte toujours.
Qu'on capte, oui.
Qui est là, qui nimbe l'univers. C'est vraiment le mot. Quoi. On est baigné par cette lumière, alors qui est très faible, qui est très difficile à voir. Hein. On est dans de la vraiment mesure de très haute précision. Mais qu'on a capté, c'est validé, c'est vrai. Ce rayonnement, il existe. Et on peut le cartographier. Et c'est ça qu'a fait Kobe, en tout cas qu'a commencé à faire Kobe. Ensuite, il y a d'autres satellites qui sont retournés pour affiner les observations. Parce que bien sûr... Alors, bon, voilà, déjà, après on passe à autre chose. Mais déjà, voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette histoire de Big Bang et d'univers qui devient transparent. Et donc de ce flash qui est émis au moment où les électrons sont captés par les protons et où l'hydrogène apparaît. Alors...
Est-ce que c'est ce flash, il est permanent pour ça qu'on l'entend tout le temps. Il n'y a pas un moment où il va s'arrêter
enfin, tu Non, vois, en, a... fait, en fait, les, la lumière, elle a été émise de partout, de chaque point de l'univers, en fait, cette lumière a été émise. Ensuite, l'univers a continué son expansion. Parce que là, on estime que ce flash, il a été émis à peu près 400 000 ans après le début du Big Bang.
D'accord.
Donc, à savoir qu'on estime que l'univers, il a à peu près 15 milliards d'années. Voilà, on est à 400 000 ans après le début, donc il y a plus de 14 milliards d'années. Cette lumière a été émise, mais on est d'accord qu'on ne peut pas sortir de l'univers, d'accord ? Donc cette lumière, elle est là, elle a aucune raison, elle ne va nulle part ailleurs. Donc elle continue à rester là, diffuse,
okay.
autour de nous, et on peut encore la capter aujourd'hui.
Elle a été émise de partout, du coup ?
Exactement.
C'est ça, partout où on regarde, elle a été émise.
Exactement.
Ah oui, d'accord.
Sauf que quand on regarde de façon un peu précise, en fait, cette carte, on se rend compte que le rayonnement, il n'est pas exactement le même partout. Il y a des endroits où il y a un peu plus d'énergie qu'à d'autres endroits. Et ça intéresse les astrophysiciens parce que là, si on dit qu'il y a plus d'énergie, ça veut dire aussi qu'il y a plus de matière. Et donc, s'il y a plus de matière, la gravitation, elle va ensuite rentrer en action, hein, toujours dans l'univers. Et donc, bah, la masse va attirer la masse. Donc, si vous avez un endroit où vous avez déjà un peu plus de masse, a priori, avec le temps, cet endroit va devenir un pôle attractif et va faire boule de neige. Il va attirer un peu de masse. Après, il va devenir plus gros, donc il va en attirer encore plus. Et donc, en fait, sur des micro-variations comme ça de densité énergétique, en fait, vous avez un début de structuration de la matière de l'univers.
Les premières galaxies
Les embryons, le début de tout ça.
Okay, ouais.
Et c'est ça qui intéresse aussi les cosmologistes. C'est d'observer ce rayonnement auquel on a accès expérimentalement pour essayer de voir comment, de là, on arrive aux structures qu'on observe, nous, maintenant, avec ces galaxies. Et il y a quand même ces galaxies ne sont pas, on en a déjà parlé, elles ne sont pas organisées n'importe comment, réparties n'importe comment dans l'espace. Il y a beaucoup, toute une branche de la cosmologie qui étudie ça, les structures de l'univers à grande échelle. Et on observe, en fait, déjà, on voit que les galaxies, c'est comme les étoiles, elles se regroupent en amas. Nous, on est dans l'amas local, l'amas de la Vierge, etc. Et qu'en plus, on observe en fait des espèces de filaments, une espèce de ça forme un peu comme les dentelles du Cygne, mais à l'échelle de galaxies, quoi, des filaments de galaxies. Ça forme des structures comme ça à très grande échelle dans l'univers. Alors là, on est aux limites de l'observable, on est aux limites de ce qu'on peut un peu approcher, appréhender. Mais en tout cas, on observe des structures. Et les scientifiques, ils essayent de construire des modèles pour expliquer leur formation. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Voilà pourquoi on l'appelle rayonnement fossile, hein, parce que ça date d'il y a plus de 14 milliards d'années, et fossile un peu des débuts de l'univers. Alors, on appelle aussi rayonnement à 4K, alors 4 Kelvin, parce qu'en fait, les Kelvin, j'en ai déjà parlé, c'est une échelle de température en physique, c'est celle qu'on utilise, où le zéro n'existe pas. Le zéro, c'est moins 273 degrés Celsius, et ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement dans la matière, que les électrons ne bougent plus, les protons ne bougent plus. Et là, en fait, ça n'existe pas dans le monde physique. Donc, 4 Kelvin, ça veut dire qu'on est à moins 269 degrés. On est à des températures qui sont très basses. Ça veut dire qu'on est quand même sur des... L'équivalent, c'est de dire des énergies très faibles, quoi. On est sur une densité d'énergie qui est quand même très, très faible. Voilà, c'était juste pour expliquer le nom, pourquoi on l'appelle comme ça. D'ailleurs, il n'est pas à 4K, il est à 2,7, mais on l'a appelé quand même comme ça à l'époque. Mais ce n'est pas grave. Je m'arrête là sur cette histoire de fond cosmologique, en tout cas sur la partie scientifique. Et je voudrais faire un petit parallèle avec un tout autre domaine de la connaissance humaine, et avec le home. Alors pour ceux qui sont familiers de la plaine du Gange ou des contreforts de l'Himalaya, ils verront de quoi je parle. Le home, c'est une syllabe, c'est aussi un mantra dans la tradition hindoue et bouddhiste. Et alors, je vais vous lire comment il est défini par ces personnes. Donc ça date d'il y a 3000 ans. Donc home est le son originel, le son primordial. Il est la vibration primitive de l'univers. Donc ils expliquent que pour eux, le home, c'est la forme de la conscience qui est en train de se manifester. Voilà. Et surtout, ils disent que c'est le son primordial à partir duquel l'univers se serait structuré. Donc, dans leur vision... En tout cas, dans leur vision, on est quand même dans cette idée d'un son, donc qui dit son, d'une énergie, hein, qui pareil, sous-tend tout l'univers, et qui serait à l'origine un peu de ces structures, etc.
C'est incroyable qu'à cette époque...
Je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison, parce que je cherche à convaincre personne, il n'y a rien prouvé. Mais juste, je trouve que quand vous mettez côte à côte ces deux thématiques, que ce soit le rayonnement fossile ou que vous preniez le home, je ne peux pas m'empêcher, moi, d'y voir vraiment un parallèle très clair. Voilà, donc j'avais envie, en fait, aussi d'ouvrir là-dessus et de vous laisser... méditer sur ce thème. On va passer à la pause musicale et on se retrouvera après. À tout de suite. Et
totem n'a jamais pu abattre à leurs pieds, ni Boeing, ni même DC-4. Ils rêvent de hijack et d'accidents d'oiseaux.
Thank you.
Mais bon retour dans l'étoile polaire. Vous êtes bien sur RDIWA 107.5, l'émission d'astronomie amateur. Et dans le studio, c'est Fred, Pierrick et Axel. On va donc continuer dans le déroulé de cet épisode 13 et attaquer donc la fameuse et désormais mythique rubrique spatiale de Pierrick, qui va donc nous parler des humains dans l'espace et de la première sortie de l'homme. À toi, Pierrick.
Tadam ! La première sortie extravéhiculaire, la première fois où l'être humain est sorti en scaphandre dans l'espace. Sorti de son petit vaisseau avec son petit hublot tout pourri pour aller voir ce qui se passe dehors.
Ça va pas être très très fier à ce moment-là. Et après, bon, excité, mais pas très fier.
Il n'est pas en maillot de bain non plus. Donc, ça, mais... Des fois, ils comparent leur combinaison à des mini-vaisseaux, en fait. C'est tellement
c'est gros,
de l'extérieur. Et voilà.
Donc, je rappelle un peu, on est en contexte de la guerre froide, on est dans les années 60. C'est la guerre entre l'URSS et les États-Unis. Et donc, ils se font la course pour qui arrivera le premier à faire quelque chose de mieux que l'autre. Et donc là, l'URSS a lancé sa mission Voskhod 2 pour aller faire cette première sortie extravéhiculaire. Donc, on est le 18 mars 1965. Et Sergei Korolev, un grand homme, un ingénieur de génie de l'URSS qui développe le programme spatial, décide d'envoyer deux hommes dans l'espace, Alexei Leonov et Beleyev. Beleyev, je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà. Et donc le vaisseau Voskhod 2 décolle. Après 1h30 de mise en orbite, il se décide à faire la sortie. Alors pour ce faire, ils avaient développé un espèce de sas gonflable qui se prénomme Volga. Ils devaient s'équiper de la combinaison Berked, qui signifie aigle en russe. J'adore leur petit nom. Et du coup, ils ont dû. Donc, c'est un sas qu'ils ont gonflé dans l'espace, comme une espèce de tube qui se gonfle. Et donc, il y a Leonov qui s'est glissé dans ce sas équipé de sa combinaison. Pendant que celui qui restait dedans, il ferme l'écoutille interne, donc celle qui est entre le vaisseau et le sas. Il dépressurise le caisson, puis il ouvre l'écoutille externe, celle qui donne sur l'extérieur.
Principe du sas.
Voilà. Et donc ça, là, Leonov, il sort doucement sa tête et il ne fait pas le malin. Et il sort complètement dans l'espace. Il y a d'ailleurs une vidéo à l'ancienne. Ils avaient filmé ça et retransmis ça. On peut encore la trouver sur YouTube, c'est rigolo. Et donc, il sort relié par un câble de 4,50 m. Il sort à peu près 10 minutes. Et au bout d'un moment, il décide de réintégrer le sas pour rentrer dans le vaisseau. Sauf que là, il se rend compte que sa combinaison est complètement gonflée. Il y a une espèce de phénomène de pression qui ne va pas dans le... et que sa combine est complètement gonflée. Et donc, normalement, il devait rentrer les pieds en premier dans le sas pour fermer l'écoutille externe. Mmh. Et du coup, ça, il panique, il ne peut pas, il rentre la tête la première. Et là, il doit faire demi-tour à l'intérieur du sas, qui est, il faut l'imaginer, la taille d'un être humain.
Ouais.
Donc, faire demi-tour...
Mais c'est un tuyau, quoi.
Ouais, voilà, faire demi-tour là-dedans,
avec la combinaison gonflée.
En train de paniquer avec plein de buées partout.
Et il s'en sort.
Et donc il s'en sort. Il arrive tant bien que mal. Alors c'est un peu la panique parce que tu sais, ils écoutent leur cœur, ils écoutent en direct et du coup
il a dû stresser un petit peu, c'est sûr. Ouais.
Et je crois qu'il a rien dit parce que sinon il s'est démerdé tout seul en se disant si je dis quelque chose, il faut que j'attende la procédure et là j'en ai pour des plombes et je suis mort. Du coup, il a fait son truc. Donc, il fait une culbute éprouvante dans le sas. Et enfin, il arrive à fermer l'écoutille et à repressuriser. Et à ce moment-là, il enlève son casque très rapidement. Et ça va, il s'en sort.
Première sortie, vivant.
Ouais, c'est bon. Réussi. Donc après, il largue le sas en mettant feu à des boulons explosifs. Donc ça, c'était un peu risqué parce qu'il ne savait pas trop comment ça allait réagir. Tout se passe bien, ils expulsent le sas. Mais l'écoutille est mal fermée et l'air s'échappe lentement de la cabine où ils sont.
Aïe.
Donc là, ça recommence à paniquer. Donc ils injectent de l'oxygène pour compenser, mais c'est hyper inflammable l'oxygène. Et du coup, pareil, gros stress. Ils ont tous en mémoire, je pense, l'accident d'Apollo 1 qui s'est un peu fait comme ça, où ils sont tous morts cramés dans leur capsule brûlée. Bref. Donc après diverses manœuvres, ils arrivent à stabiliser ça à peu près. Et puis au bout de quelques orbites, la pression des réservoirs d'air tombe anormalement. Donc ils ont bientôt plus d'air pour respirer. Donc là, au sol, on leur dit que tout va bien, que ça va tenir le coup jusqu'à la rentrée sur Terre, que ça va le faire. Ils disent OK. Donc normalement, tout est automatisé pour la rentrée en atmosphère. Notamment la mise à feu des rétrofusées pour freiner la capsule et qu'elle rentre dans l'atmosphère terrestre. Mais bizarrement, rien ne se passe.
Ah,
du coup...
Problème.
Du coup, on passe en manuel. Ok, alors pour ce faire, il faut utiliser le périscope VZOR. Et pour l'utiliser, il faut que les deux comparses s'enlèvent de leur siège et qu'il y en a un qui se mette dessous le siège et qui tienne fermement l'autre pour qu'il puisse viser avec l'appareil et faire un calcul de trajectoire.
Ouais, ouais, ça semble un peu surréaliste ton déroulé des opérations là, Pierre. On passe en manuel. On t'écoute.
Donc ils y arrivent à calculer leur trajectoire de rentrée et donc ils étaient enlevés de leur siège et du coup il faut qu'ils regagnent leur siège et qu'ils mettent à feu les réacteurs. Donc là il se passe à peu près 40 secondes, un peu plus, et du coup ce petit temps là, eh ben, ça décale un peu les coordonnées. Et ça va décaler du coup leur rentrée et leur site d'atterrissage. En fait, il faut qu'ils se remettent dans leur siège parce que sinon, dans leur calcul, il faut qu'ils soient dans leur place. Parce que sinon, le centre de gravité de la capsule, il n'est pas au bon endroit et ça dévie tout. Et donc ça, c'est un coup de trajectoire non prévu. Ils arrivent quand même à se poser sans encombre. Mais ils ne sont pas repérés tout de suite. Et oui, comme ils ont décalé leur trajectoire, ils sont perdus au fin fond de la forêt russe. Et on ne les trouve pas. Il va falloir 4 heures pour qu'un hélico puisse les repérer. Donc il faut savoir que c'est l'hiver, qu'il y a 2 mètres de neige, c'est dans la forêt, ils sont complètement paumés au milieu de nulle part. Ils sont à plus de 400 km du point prévu. Donc on leur parachute des vêtements chauds. Donc ils passent une première nuit dehors parce qu'ils sont tellement loin de tout que personne n'arrive à les rejoindre le jour même. On arrive à les rejoindre. Et le temps de préparer un site d'atterrissage pour l'hélico, ils passent une deuxième nuit dehors.
En fait, c'est presque pire d'atterrir en Sibérie que de sortir dans l'espace. En fait.
Donc c'est quand même une sacrée aventure qu'ils ont vécue, mais ils s'en sortent. Ils s'en sortent, ils retournent à Moscou en héros de l'Union soviétique. Ils reçoivent 15 000 roubles, ce qui fait 160 euros actuels.
Ah oui.
Une voiture de marque Volga et 45 jours de congé. Merci les gars. Merci les gars, trop fort.
Est-ce que tu vis 45 jours avec 15 000 roubles?
Donc il leur demande bien sûr de pas de faire le silence sur les péripéties du vol. Tout ça, on le saura dans la fin des années 80, quand l'URSS commence un peu à s'effondrer, tout ça. Et voilà, pour cette aventure incroyable, c'est quand même des sacrés voyages. Et les USA font la même chose le 3 juin, donc quelques mois plus tard, la première sortie avec Edward White, qui se passe un peu mieux.
Du coup, est-ce qu'il copie la procédure de retournement à l'intérieur du SAS ou...
Ça, c'est une autre aventure.
Si, j'imagine dans les dessins animés les serpents qui mangent un truc, tu vois la forme de la bête dans leur cou comme ça, mais qui se retourne dans son sas.
Et donc voilà pour cette sortie de folie.
Pour cette première sortie de l'homme dans l'élément spatial.
Ouais.
Bon, depuis on en a fait d'autres, mais au fond pas tant que ça. Enfin, je veux dire, on n'en est pas encore au stade où l'humain se promène dans l'espace où c'est courant. Quoi.
Non, ouais,
c'est
ouais,
pas du tout le cas.
Non.
On a quelques-unes par an. Et voilà.
Ouais. Encore loin de ça, quoi. Après, il y a toute la question, hein, mais peut-être que je sais pas si on pourra l'aborder peut-être dans la suite, mais c'est quelque part de l'adaptation de l'homme à l'espace ou dans l'environnement spatial. Un humain qui reste, imaginons des années, ça on l'a jamais fait encore, qui reste des années dans un environnement spatial, qu'est-ce qui se passe? même s'il est protégé par un vaisseau, par un scaphandre, il y a toujours les rayons cosmiques qu'il traverse, il y a toujours plein de choses. Et apparemment, il y a quand même l'idée que les rayons, tout ce qui est particules spatiales est assez énergétique et peut avoir tendance en fait, à interagir avec les codes génétiques, avec tout ça. Ça, on l'observe. Mais on n'a pas encore trop de recul en fait, sur ce qui peut réellement se passer si on se met à passer du temps dans l'espace. En fait.
Ouais, plusieurs années, tu veux dire.
Non, on n'a aucun recul. C'est une des principales missions de la Station Spatiale Internationale. Ouais, les astronautes sont des cobayes.
Ouais, parce qu'ils font vaguement d'expériences scientifiques, mais on sait très bien que le bilan scientifique de l'exploration spatiale, en tout cas sur l'humain, sur tout ça, c'est proche de zéro. Il n'y a aucune expérience vraiment intéressante qui a été faite là-haut en termes de science pure. Mais par contre, sur l'environnement, sur comment on s'y adapte, sur comment ça se passe, ça, oui.
Pour préparer à aller plus loin. Oui, parce que le record, c'est un peu plus d'un an, je crois, dans l'ISS. Mais pas bien plus.
On en est là et je trouve d'ailleurs que ça va nous... Merci Pierrick.
Plaisir. Merci.
Ça va bien nous amener à la partie finale de l'émission et à cette rubrique Abrac, où donc on vous a dit on va ouvrir une série d'émissions sur la science-fiction. Et donc là, les histoires de cosmonautes, d'humains dans l'espace, on est vraiment dans les... Là, pour le coup, on est dans les prémices de la science-fiction.
Moi, j'ai l'impression de regarder un truc de science-fiction quand je regarde ça.
C'en est pas loin.
Ça, c'est vraiment fait, mais...
Oui. Ben ça, on peut... Moi, j'étais pas né, mais ceux qui ont vu les premiers pas de l'homme sur la Lune, ils ont dû quand même... c'est quand même une émotion, je pense. Ouais. Après, on voit que 50 ans plus tard, il y a quand même tout un discours que je trouve est de plus en plus relayé et qui dit non, c'est pas vrai. Alors, non, on n'est jamais allé sur la Lune. Non, on n'a jamais fait ça.
Bon. On peut douter de tout.
Moi, je dis qu'on peut douter de tout. Ouais. Mais tu vois, pour moi, dire ça, c'est un peu du même niveau que de dire non, la Terre, elle est plate. Enfin, il y a un moment...
Oui, je pense qu'on peut douter de tout, mais avec méthode.
Il y a un moment, il faut arrêter. Quoi. Donc,
c'est vrai que moi, le jour où j'ai appris l'existence de cette théorie alternative, on va dire, j'étais déçu, en fait. Je croyais que ça enlevait du rêve un peu, de dire non, on n'est pas allé sur la Lune, tu vois, bon, on a toujours été là. Ah, c'est dommage, c'est un côté, ça fait rêver, je trouve, quoi, de se dire qu'il y a une poignée, je sais plus, une quinzaine d'hommes qui sont allés là-haut.
En ce moment, je vois des satellites qui sont autour de la Lune et qui prennent des images hyper précises de la Lune, et on voit les traces.
Oui, on voit ce qu'ils ont laissé. Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'érosion.
Ça peut être une fausse preuve.
Non, mais on ne va même pas rentrer dans ce débat-là. Vraiment, pas dans cette émission.
Continuez de rêver, surtout.
Voilà. Et donc, on parlait de science-fiction. Et là, aujourd'hui, on voulait parler de nos références. Donc, du coup, moi, ça m'amène un petit peu à parler peut-être de l'enfance, de l'adolescence, à cette époque-là. Qu'est-ce qui a un petit peu pétri cette envie de m'intéresser au ciel? Et moi, c'est clair qu'un film comme Star Wars, ça a ouvert beaucoup de portes.
Pareil,
je pense que ça a été, c'était l'époque, j'avais 10 ans à l'époque, où, quand Star Wars il est sorti, c'est sûr que... Bon, en plus, il y a tout ce truc de la force, espèce de truc un peu mystique, mais suffisamment simple pour que quand même on puisse tous s'identifier et voir à peu près de quoi ça parle.
Les chevaliers. Des épées, des sabres.
Et voilà. C'est... Et ça aussi, je veux le mentionner, pour moi, la science-fiction, elle est ce qu'on va appeler la fantasy ou l'heroic fantasy, c'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux, Bilbo, tout ça. Au final, je trouve que c'est pas si loin que ça. En tout cas, dans les thématiques, la science-fiction, elle va avoir la science. Dans l'heroic fantasy, on va avoir plutôt la magie, des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait pareil, mais au final, ça ouvre des possibilités peuvent se recouper, quoi. Et si là, je vais citer pour moi l'œuvre la plus, mon œuvre phare de science-fiction, c'est Dune, le livre Dune de Frank Herbert. En tout cas, les 3-4 premiers là du cycle. Moi, c'est quelque chose qui m'a réellement impacté profondément. Et quand vous voyez Dune, donc pour ceux qui connaissent, vous avez l'histoire des Fremen. Quand vous êtes sur cette planète désertique avec les Fremen qui se battent au couteau, qui chevauchent des vers des sables, là, pour le coup, oui, il y a des vaisseaux spatiaux et tout, mais on est vraiment à mi-chemin entre l'heroic fantasy et la science-fiction. La science-fiction, elle a vraiment cette capacité. Elle peut très bien, oui, avec un vaisseau spatial, vous amener sur une autre planète, mais vous arrivez sur la planète, souvent, c'est des technologies un peu moyenâgeuses. On rejoint des trucs, comme tu disais, de chevaliers, de tout ça. Ce mélange-là, il existe, quoi. Et
Un cheval, un vaisseau spatial, finalement. Ça se
Au final, ou un camion. Ouais, au final, c'est un véhicule. Donc voilà, moi je dirais science-fiction, là c'est vraiment Star Wars. Il y a eu Star Trek petit aussi. Et puis Dune. Ouais, je sais pas vous un peu ce que vous avez comme, comme référence.
Ouais, moi c'est pareil, hein, petit, c'est Star Wars. Quand ça passait à la télé, c'était un grand moment pour moi. J'étais scotché devant, quoi. C'était tellement mythique. Enfin, c'est mythique. Et ce grand méchant Dark Vador emblématique qui fait. Qui fait vraiment peur quand j'étais petit.
Et qui en plus est le père du héros.
Et ça, c'est un truc. Et toute cette histoire-là, ouais, c'est... pour moi, c'était un grand moment d'échappatoire petit de pouvoir voyager avec ces films, de m'imprégner de ces personnages et toutes ces histoires d'aventure. Parce que c'est, comme tu dis, c'est l'aventure.
C'est toujours la grande aventure. Ouais. Ouais.
Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué petit, c'est Thorgal, enfin petit adolescent. Ah, oui. J'ai énormément aimé toujours Thorgal, ce côté. Et puis il y a un petit côté SF parce qu'il vient des étoiles sur un vaisseau.
Même complètement, il y a toute une série où ils sont. C'est vraiment clair que c'est des extraterrestres en fait, avec des pouvoirs psychiques, etc. Il y a une partie dans Thorgal qui bascule vraiment dans la science-fiction. Quoi.
Tout en restant très terre à terre aussi, comme tu dis, avec les arcs, les flèches. Et Thorgal, c'était aussi. C'est pareil, ces espèces de héros qui ont toujours un noble idéal, tu vois, qui est comme la force, le côté.
Les Jedi.
On en revient à ces effets-là, qui, on peut s'identifier, quoi. Et c'est des références, hein, pour moi, toujours. Enfin, ça m'a imprégné, et c'est toujours imprégné en moi, quoi.
Je pense que pour une génération un peu plus tardive, il y aurait Matrix.
Peut-être.
C'est quand même Matrix, c'est quand même de la science-fiction et à l'époque c'est enfin voilà, moi c'est la génération d'après mais c'est ça a impacté fort quand même.
Matrix ça m'a marqué Je te laisse finir.
Vas-y.
Je crois que ça va être la dernière émission avec vous puisque moi Star Wars c'est pas ma tasse de thé. Comme tu dis, je suis une génération plus jeune. Et en termes de science-fiction, je pense que ça a été beaucoup les jeux vidéo plus que les films. Il y avait un jeu vidéo qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Spore, comme un sport de champignons, tu vois, où tu crées ton espèce de bestiole, tu choisis sa forme et tout, et tu la suis du stade cellulaire et toute son évolution sur des millions d'années. Et jusqu'à la dernière partie du jeu où tu es dans l'espace, en phase spatiale, et où tu peux coloniser, commercer avec d'autres espèces, tout ça. Et tu te balades dans une galaxie immense. Ça m'avait bien plu, gamin, enfin, début d'adolescence. Il y a eu en livre aussi H2G2. Le guide du voyageur galactique, qui est drôle, c'est une comédie, mais science-fiction quand même. Ça m'a beaucoup marqué, je l'ai lu assez jeune aussi. Je le relis de temps en temps, c'est toujours, je fais toujours rêver et rire. Il y a eu un film que j'ai vu qu'une fois, mais dans les années 2000, je sais plus. Sinon, un film beaucoup plus récent, il y a Interstellar qui m'a beaucoup.
Interstellar, il est bien. Et Premier Contact aussi. Premier Contact, tu l'as vu aussi celui-là
Premier Contact.
Une espèce de linguiste qui arrive pour communiquer.
Avec des pieuvres, là.
Et un langage visuel.
Ouais, c'est vrai que c'est chouette ça.
Histoire de voyage dans le temps. Je trouve qu'avec Interstellar, c'était deux films qui, dans la SF récente, sortaient un peu du lot. Par rapport à des trucs qui souvent sont d'une qualité assez médiocre.
Ouais, c'est ça.
Des scénarios assez pauvres.
De la guéguerre.
De la guéguerre d'action, des choses comme ça. Mais au fond, il n'y a pas de vision. Ça n'emmène pas. La SF, elle emmène toujours quelque part où on n'est pas allé, en fait. Dans le possible, dans les situations, dans l'imaginaire, dans imaginer d'autres formes de vie, comment elles pourraient fonctionner, et forcément des choses qui ouvrent sur des trucs un peu métaphysiques en général.
Et ben ça, Star Trek, ça va très loin là-dedans, dans cette idée d'exploration, de pas de guéguerre, mais justement d'aller voir comment la vie s'est développée ailleurs. Je trouve ça assez cool.
Après, il y a deux films quand même qui ont énormément marqué, en tout cas ma génération, c'est Alien et aussi Blade Runner. Blade Runner, ça amène, ouais, mais ça amène aussi à une autre catégorie de science-fiction qu'on va plus appeler l'anticipation, avec des mecs comme K. Dick et tout, qui sont quand même des maîtres du genre, quoi, et qui eux vont pas forcément placer ça en l'an 10 000 avec des vaisseaux, des grosses technologies, mais dans un futur peut-être 50 ans, 100 ans plus tard. Et forcément, qui a dévié, qui a changé, avec des possibilités qu'on n'a pas. Donc, on est à cheval. Ils appellent ça de l'anticipation. On est à cheval entre réellement la science-fiction et le monde réel où on n'est déjà plus. Quoi. Et ça, c'est aussi des films qui ont marqué du monde.
Alien, c'est presque un film d'horreur tellement c'est.
C'en est un.
Il est flippant. Oui.
Mais là, Alien, pour le coup, c'est un peu comme explorer les abysses. Quoi. C'est vraiment dans l'espace, il y a quoi le pire des tueurs, la pire des créatures, où l'homme redevient à nouveau chassé, qu'il a perdu sur sa planète après avoir exterminé tous les grands prédateurs. Donc ça, c'est une grande peur de l'homme quand même. On le retrouve un peu avec le fond de la mer aussi. Les kraken géants, les machins, des trucs. On arrive au fond de la mer, là, on n'est plus du tout chez nous. Et il peut y avoir des créatures qui viennent nous manger. Concrètement, c'est ça la peur aussi, quoi. C'est se faire manger. C'est plus que de se faire tuer. Quoi. C'est se faire manger, en fait. c'est encore un cran au-dessus, quoi. Voilà.
Après, dans les BD aussi, moi, j'ai beaucoup aimé, un peu plus récemment, Bételgeuse, Aldébaran. Toutes ces BD de Léo, là, l'auteur, qui sont très belles, je trouve. Et...
Je ne connais pas.
Ouais, ça, c'est chouette. C'est, pour la faire court, c'est l'être humain qui s'est exporté sur une planète très lointaine et qui sont coupés de la Terre depuis plus de 150 ans et qu'il y a de nouveau un vaisseau qui revient là-bas. Et donc, il y a toute une histoire de deux mondes un peu qui sont un peu perdus. Et puis surtout, il y a une espèce de vie qu'on connaît pas au fond de ces océans et qui donne des pouvoirs aux gens et... Ouais, c'est assez beau comme truc. J'ai bien aimé
en BD. Avant ça, il y a eu L'Incal, Jodorowsky et Moebius, là, puis tout le travail de Moebius. Mais là, L'Incal, c'est quand même une sacrée toujours avec les trucs mystiques de Jodo,
Jodorowsky,
et puis le dessin de Moebius qui est quand même énorme. Et avant ça, un des précurseurs vraiment de la SF en France, là, c'était Druyer. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur. Non. Lui, il est début des années 70. Et lui, c'était le premier. Donc, Lone Sloan, c'était le premier à sortir des cases, en fait. Ouais. C'est-à-dire que lui, il a explosé les cases. Ça partait, mais dans tous les sens. Et les dessins, enfin, c'est assez sombre hein, comme univers. Mais Druyer, c'était fort, ça, les débuts de la science-fiction. Il a inauguré quelque chose, quoi, vraiment dans son style et dans la liberté qu'il a offert à la BD, quoi.
Okay.
En venant de Spirou, ça faisait un petit choc.
Mais c'est vrai que Jodorowsky, ça me fait penser au Métabaron. Je trouve mythique cette série.
Le Métabaron, ça vient de L'Incal.
J'ai moins accroché L'Incal, mais les Métabarons, j'ai beaucoup aimé. Cet univers Jodorowsky, c'est incroyable cette créativité qu'il a.
Ouais. Puis c'est pétri d'enseignements quand même.
Ouais. Et il y a plein de symboles. Beaucoup de symboles, symboliques.
Et c'est ça aussi qui est intéressant. Par science-fiction, il y a comme la planète des singes. Ça, c'est des bouquins. C'est un bouquin à la base qui est manqué. Ensuite, est devenu un film qui est assez connu, mais qui est quand même intéressant aussi, qui pose toutes ces questions. Là encore, on retrouve ces thématiques de l'homme, il va où? L'homme, il fait quoi? Il va où? Qu'est-ce que ça va donner? En fait, en tirant vers l'avenir, à chaque fois, les auteurs, ils proposent leur vision de l'homme, en fait, en disant, l'homme, pour moi, je le vois aller vers là. Rarement, c'est très optimiste. Ça dépend des cas, mais c'est vrai qu'on va souvent vers ça.
Star Trek, c'est optimiste.
Star Trek, c'est plutôt optimiste. C'est plutôt optimiste. Mais c'est très américain aussi. C'est au sens où...
Ils sont là pour faire la paix, quoi.
C'est là pour faire la paix, puis c'est les plus forts, en fait. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont pouvoir sortir les pistolets laser, les machins. Il y a une forme de confiance, je trouve, très cow-boy, quoi, qui est confiant dans son armement, confiant dans son équipe, confiant dans sa capacité à faire le job.
Ouais.
Tu vois, il y a un truc comme ça dans Star Trek. Voilà. Moi, je voudrais quand même mentionner... certains écrivains, Asimov, quoi. On ne peut pas parler de science-fiction sans parler d'Asimov. Là, on bascule sur une SF qui est plus cérébrale, pétrie de science, parce que Asimov, il était vraiment, vraiment là-dedans. Donc, c'est lui qui a écrit Les Robots, et puis surtout pour moi, Le Cycle de Fondation.
Ouais.
Ça, c'est vraiment... c'est vraiment... Et puis, il y a Simak aussi, Clifford Simak. Demain les chiens. Voilà. Enfin, y a quand même toute une école d'auteurs. Ça, c'est un truc dont je voudrais parler un petit peu avant de finir. C'est que tout ce qui est science-fiction, c'est rangé souvent un peu dans la catégorie sous-littérature. Mmh. Littérature de jeunesse ou voilà, livre un peu comme l'heroic fantasy d'ailleurs, des choses considérées un peu pas sérieuses, quoi.
Moins importantes, ouais.
Et il faut reconnaître que sur le tas de la production de science-fiction, il y a énormément de livres qui méritent pas d'être édités, hein. Il y a des collections qui sont hallucinantes, ouais. Hein. On en trouve dans les vide-greniers là à tour de bras. Si vous en prenez, vous lisez, ça vaut rien, quoi. Il y en a plein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas la même proportion que livres conventionnels qui sont écrits? Donc moi, je ne trouve pas que la science-fiction soit un genre mineur. Je trouve que quand on se donne la peine de chercher, il y a vraiment des perles. Il y a de très grands auteurs, même littérairement parlant. Il y a des gens qui savent réellement écrire et puis qui ont des visions à proposer. Des visions qui questionnent et qui permettent, je trouve, d'aller un peu plus loin que le quotidien.
Qui nous influencent forcément, qui nous font toujours aller de l'avant. Et c'est chouette.
Voilà.
Bon, merci. Oui, vas-y.
J'aime bien ton clin d'œil à Asimov. Et ouais, moi, c'est comme je disais à Pierrick l'autre fois quand tu m'interviewais, que j'aime beaucoup dans la science-fiction quand il y a moins de fiction que de science quelque part, et c'est pour ça que j'aime plus Interstellar que Star Wars par exemple, ou dans Interstellar tu vas voir toutes les scènes dans l'espace, t'as pas de son par exemple, ou
2001 l'Odyssée de l'espace, ouais, voilà, il fallait le mentionner au moins une fois avant la fin quand même.
et pour revenir aux jeux vidéo aussi, hein, y a énormément de jeux vidéo qui se passe dans l'espace. Il n'y en a aucun qui me plaît, en fait. Sauf, sport, dont j'ai parlé un peu, et un relativement récent, mais qui est une très vieille série, c'est le, je sais pas combien, quatrième, cinquième opus. Le premier est de 84, c'est la série des Élites. Et dans c'est toujours un peu le même principe, mais la carte du jeu dans lequel tu peux évoluer, c'est notre galaxie reproduite à l'échelle, avec ses 200 milliards d'étoiles. Des planètes partout, avec les vraies lois physiques, les planètes tournent. Si tu vas sur une planète, un jour elle sera là, et puis il fera nuit à la base où tu vas te poser dessus. Tu reviens quelques heures après, il fera jour, et puis tu viens dans 6 mois, elle sera de l'autre côté, enfin du soleil, des choses comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, et ça m'a permis dans ma pratique de l'astronomie amateur de me rendre compte un peu, d'avoir une nouvelle perspective sur ce que j'observe. Et sur les constellations, ne serait-ce que sur les constellations, parce que tout ce qu'on connaît en vrai est mis dans le jeu. Du coup, tu peux aller sur Vega, autour de Vega, tu peux aller sur des vraies étoiles, et donc tu vois que les constellations, c'est pas un plan, c'est vraiment, il y a de la profondeur.
T'explores réellement
Ouais. Et tu t'en prends plein la vue. Voilà, la diversité qui nous est offerte.
Merci Axel. Ouais. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour cette semaine. On espère que ces discussions vous ont donné envie d'observer le ciel. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Mmh.